Changer de prénom, changer d'apparence, changer de comportement. Jusqu'où les personnes racisées doivent-elles aller pour éviter de subir du racisme? Quand on vit dans une société majoritairement blanche et qu'on ne l'est pas, tout le monde nous rappelle qu'on est différent. Si on n'a pas un prénom français, si on n'a pas les cheveux lisses, on s'expose à des regards, des critiques, voire des agressions racistes. Alors on veut s'intégrer, se protéger. On adopte des stratégies pour se fondre dans la masse. Par exemple, moi, je m'appelle Garance, je suis métisse, et pendant des années, ma stratégie, c'était de cacher mes cheveux afro. En termes de moquerie, j'ai eu droit à tout. Mouton, brosse à chiottes, paillasson. Une fois au collège, les mecs de ma classe m'ont même craché dans les cheveux. J'avais déjà beaucoup de mal à aimer mon corps, et ça m'a pas du tout aidée. Alors pendant des années, j'ai caché mon afro. Les cheveux toujours dans un chignon, pour ne pas attirer l'attention. Et des stratégies comme ça, il y en a plein. Les personnes noires en utilisent tous les jours pour éviter de subir du racisme. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir en quoi elles consistent concrètement.
Vous écoutez Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. S'adapter à tout prix, un épisode signé Garance Caillet.
Pour vous expliquer ce qu'il se passe dans la tête d'une personne noire, il faut que je vous parle de ma maman.
Tu m'entends ?
Ouais, c'est bon.
Qu'est-ce que je dois mettre sur mon téléphone ?
Ah oui, c'est le dictaphone.
Alors c'est où ça alors ?
Elle s'appelle Sylvia, elle naît en 1971 à Dakar. 3 ans plus tard, elle arrive en France, à Strasbourg. Elle doit s'adapter à un nouveau pays, à un nouveau climat, parce que l'Alsace, c'est pas tout à fait la même que le Sénégal en termes de chaleur. Et à partir de ce moment-là, et ce pendant toute sa vie, elle a aussi dû adapter toute sa personnalité pour éviter de subir du racisme.
Oh, bon, c'est pas compliqué, j'étais la seule petite fille noire de toute la cour. Avec des petits enfants mais qui ont jamais vu une personne à la peau foncée, donc du coup ça suscite des curiosités, sûrement voilà des fois de la peur. On touche tes cheveux, on touche ta peau, certains touchent pour voir voilà si ça va les salir ou pas. Moi je me rappelle dans mon enfance avoir été appelée régulièrement la Noiraude, et la Noiraude c'était un petit dessin animé qui passait à la télévision. Donc c'était une vache blanche avec des taches noires qui était un peu, je crois, un peu bébête, à qui il arrivait des mésaventures. Je sais que je n'étais pas très souvent invitée aux anniversaires. Une fois, j'ai été invitée par une petite copine. Et puis, quand je suis arrivée devant chez elle, et sa mère a jamais voulu que je rentre dans l'appartement. Parce que du coup, voilà, elle a dit à sa fille et aux autres enfants, pas de ça chez moi. Voilà, donc bon, qu'est-ce que tu veux hein, je suis restée un peu devant la porte en attendant que peut-être ils viennent me réouvrir. Je les entendais jouer derrière la porte. Une fois, la petite fille est venue ouvrir en disant, mais on prend le goûter, machin. Sa mère a redit, non, pas question, pas de ça chez moi. Bon. Je suis partie, je suis rentrée chez moi, quoi. Tu vois, c'est... Tu subis ça, bon ben, tu te dis, bon ben, voilà, c'est peut-être pas pour moi les anniversaires. Comment dire ? Comment... Est-ce que tu surpasses ça ? Est-ce que tu... Je sais pas. Tu le gardes, en tout cas. Tu le gardes, en tout cas, en tant qu'enfant. Et tu vois bien que ben, ça existe, puisque tu le vis. Voilà, quoi.
En l'écoutant, je me dis, mais comment on peut encaisser ça si jeune ? Tous les enfants racisés subissent des discriminations dès l'enfance. Et donc assez vite, on s'y habitue. Ou plutôt, on n'a pas le choix que de s'y habituer.
J'ai pas le souvenir forcément d'être rentrée, d'avoir pleuré, d'avoir dit à papa ou à maman, il m'est arrivé ça. Je pense que j'ai fait le choix résolu de me dire, je ne m'arrête pas à ça. Je regarde peut-être dans le rétroviseur après coup, mais vu que j'ai survécu, je continue. Enfin, comment dire, j'avance, quoi. J'avance sur ma route et, tu vois, remonter à la Noiraude ou quand j'étais petite, si j'avais flanché là, j'aurais rien fait, quoi, derrière. Donc, ouais, il n'était pas question que je flanche, quoi.
Subir des moqueries, devoir les encaisser, essayer de s'intégrer quand même au monde qui nous stigmatise, tout cela forme un poids sur nos épaules noires.
Oui, allô, Garance ?
Bonjour.
Ah oui,
ce bonjour. Poids, la journaliste oui, Douce Dibondo l'appelle la charge raciale.
Vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends.
En 2024, elle publie un livre du même nom pour expliquer l'impact du racisme sur les personnes noires.
La charge raciale, en fait, c'est toutes les stratégies d'adaptation que les personnes racisées mettent en place pour survivre dans un monde majoritairement blanc. C'est le fait de changer son apparence, par exemple, quand on est une personne noire, femme, on va vouloir lisser ses cheveux, par exemple, adopter une coiffure qui est perçue comme professionnelle, plus professionnelle en tout cas selon les RH ou l'environnement professionnel. C'est une manière de s'habiller qui va être moins racaille, notamment pour les jeunes hommes racisés, pour ne pas se faire interpeller 3, 4, 6 fois par la police tous les jours.
Pour ma mère, l'une des stratégies a consisté en ne pas utiliser son prénom de naissance. Tout le monde l'appelle Sylvia, mais son vrai prénom, c'est Eunice. Elle a aussi un troisième prénom qui est Dédé. Et dans la tradition des Guins, un peuple béninois auquel appartient ma famille, les prénoms indiquent la position qu'occupe chaque personne dans la fratrie. Dédé pour la fille aînée, Folie, F-O-L-Y pour le deuxième enfant si c'est un garçon, etc., etc. Mais Eunice et Dédé, ça fait pas très français. Alors quand elle est arrivée en France, tout le monde a préféré l'appeler Sylvia, prénom plutôt à la mode à l'époque, et puis bah c'est resté. Cette stratégie, elle l'a aussi utilisée pour mon frère et moi. Mes parents nous ont appelés Clément et Garance, deux prénoms bien français, pour qu'on passe entre les mailles du filet du racisme.
Quand on s'est marié, on a eu des enfants, la question s'est évidemment posée du prénom. Ben nous, on s'est dit, on souhaite que nos enfants portent des prénoms qui n'aient pas de consonance, parce qu'on ne sait jamais de quoi le monde de demain est fait et que j'avais vraiment envie que vous ne soyez pas confrontés à ce que moi j'ai pu vivre, alors même que mon prénom Sylvia n'emporte aucun préjugé. Oui, que vous ne subissiez pas ce que moi j'ai pu subir déjà de par la couleur, et si en plus il fallait rajouter un prénom, je n'ai pas le mot adapté, connoté, enfin je sais pas, un prénom qui rend les choses difficiles. Voilà, c'est comme quand on dit, alors je sais pas depuis quand ils font des études comme ça, un jeune qui va habiter dans une banlieue défavorisée, mal vue, avec une adresse sur son CV qui déjà, j'allais dire, fait qu'on fait un traitement vertical de son CV, à peine on a vu son adresse, son nom, son prénom. Voilà, moi, pour moi, je voulais absolument éviter ça.
Un CV parfait, c'est très important pour ma mère. Quand on était petit avec mon frère, elle nous a répété qu'il fallait bien travailler à l'école, en faire deux fois plus que les autres, être excellent, quoi. L'objectif, c'est d'être tellement bon que les autres en oublient que tu es noir. Et là, tu sors du stéréotype. Tu n'es pas le noir qui ne travaille pas, le noir feignant. L'excellence à tout prix, c'est une autre stratégie utilisée pour éviter de subir du racisme.
Ah oui, exactement. Et je pense que ça correspond à un schéma intériorisé par les parents, les grands-parents. La seule stratégie qu'on pouvait déployer, c'était être bon élève, être discret, être respectueux et être bon travailleur, être dans l'excellence. Ça fait partie des sésames qui font qu'on te reconnaît finalement pour ce que tu fais, ce que tu produis et pas que ce que tu es. Et parce que si, entre guillemets, si ce n'est que ce que tu es, ben là, on peut y afficher tous les stéréotypes. Le noir, il est dilettante, le noir, ceci, le noir, cela. Enfin, non. Moi, Sylvia, voilà ce que je suis capable de faire, voilà la force de travail que j'ai, voilà les centres d'intérêt que j'ai, enfin voilà, donc c'est le prix de la liberté.
Le prix de la liberté, c'est aussi ne pas pouvoir s'habiller comme on veut quand on est noir. Je me souviens que quand mon frère était au lycée, il a eu sa période jogging. Il en mettait pour aller en cours, pour sortir avec ses potes, bref, tout le temps. Ça a beaucoup agacé ma mère. Mais c'était pas qu'elle aimait pas les joggings. Elle avait peur que mon frère passe pour une racaille, qu'on l'associe à un stéréotype.
Dans la société dans laquelle on vit, effectivement, si c'est pour être vu comme une racaille, je trouve ça fâcheux. Enfin, voilà, c'est dommage. Donc oui, j'ai insisté auprès de Clément pour qu'il... laisse, entre guillemets, l'accoutrement survêt, sweat à capuche. Bon, Clément me disait, oui, en descendant du bus, il a voulu aider une dame à lui prendre ses affaires, qu'elle descende tranquillement et lui redonner. Bon, il a vu quand même le mouvement un peu de recul ou de peur de la personne, alors qu'elle était simplement dans, voilà, je l'aide. Oui, c'est... on porte pas le même regard sur ouais sur un gaillard un peu bronzé ou noir que sur un petit garçon qui est tout mignon.
Quand on est un enfant racisé, nos parents nous préviennent. Fais attention, le racisme est partout. Alors on les écoute, on applique des stratégies pour passer inaperçu, et malgré ça, le racisme reste. Il est toujours là.
Ah, la dernière fois que j'ai senti des regards vraiment pesants, c'était dans les dernières campagnes électorales, là, législatives, où vraiment, voilà, il y a eu quand même une sorte d'ouverture des vannes, de la décomplexion du discours, me retrouver dans des supermarchés, puis vraiment qu'on me regarde, l'air de dire mais elle est dans le même supermarché que nous, cette personne, donc supermarché un peu chic, quartier un peu chic, qu'est-ce que je pouvais bien venir faire là? Est-ce que j'étais l'agent qui mettait en rayon, ou est-ce que je m'étais perdue au hasard? Mais vraiment des regards d'un pesant de interrogatif, voilà, qu'est-ce que je pouvais bien faire là? Ça fait très très longtemps que je n'avais pas ressenti ce genre de regard. Bah, je suis là, je fais mes courses, je passe à la caisse et je poursuis ma route, quoi.
Comment on sort de ce cycle? Est-ce qu'on sera toujours obligé de faire des stratégies pour se fondre dans la masse et espérer ne pas se faire agresser? Elle est où la solution?
Il faut en fait qu'on ait des espaces de parole pour les personnes racisées, pour les parents racisés, pour transmettre aux générations futures, pour pouvoir avoir des arguments aussi, pour se défendre, dépassionner cette question de la charge raciale et du racisme en général, pour ne pas que ce soit perçu comme un tabou, et de bien comprendre que nous sommes tous traversés par des biais, par des stéréotypes, par des préjugés racistes, des réflexes, des biais cognitifs qui sont inscrits en nous. Ériger en fait une autodéfense intellectuelle. Moi j'appelle ça hacker le système et produire des bugs dans le système.
C'était Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Garance Caillet en novembre 2024. Coordination, Thomas Rozek et Céline Aslo. Réalisation Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.